Chapitre 9. À 2 heures, il entrait dans la ville. Il n'y resta qu'une demi-heure. Vers 8 heures du soir, il était de retour à Essex. Au lieu de se rendre chez Madame Cordier, qui l'attendait sans doute, il se dirigea du côté de la ferme. Il voulait voir Céline, ou au moins entendre sa voix. Quel moyen allait-il employer? Il ne le savait pas. À la faveur de la nuit, en se glissant le long des murs, en rampant, il pensait pouvoir s'approcher assez près de l'habitation pour voir et entendre sans qu'on pût soupçonner sa présence. Il n'était pas sans inquiétude pourtant, car tromper la vigilance du chien de garde n'était pas chose facile. Les aboiements de l'animal pouvaient le dénoncer et le forcer à se tenir à distance. Mais ce soir-là, Jacques était allé à une vente de nuit au village voisin et le chien avait suivi son maître. Étienne put s'approcher de la maison sans être inquiété. Il en fit le tour plusieurs fois. À 9 heures, une chambre du rez-de-chaussée s'éclaira, il s'en approcha et, à travers les vitres et les rideaux, il plongea un regard avide dans l'intérieur. Sa patience était récompensée. Dans cette chambre, il vit Céline et ses 2 enfants. La jeune femme était assise et les enfants agenouillés. Ils disaient leurs prières avant de se coucher. Dans un angle se trouvait leur petit lit, en face de notre lit plus grand. Étienne sentit des gouttes de sueur froide sur son front. Il crut que son cœur allait se briser dans sa poitrine, tant il battait fort. Appuyé contre le mur, le visage collé contre le carreau, rien de ce qui se passait dans la chambre ne pouvait lui échapper. La voix de Céline se fit entendre. « Maintenant, disait-elle, vous allez prier pour votre autre papa, celui qui est dans le ciel, auprès du bon Dieu. » Étienne arrêta dans sa gorge un sanglot prêt à s'échapper. Un instant après, la jeune mère aida les enfants à grimper sur ses genoux et pendant quelques minutes, ce ne fut qu'une suite de baisers reçus et rendus. « Maman, dit tout à coup le petit Jacques, tu nous tiens et tu nous embrasses comme le monsieur de ce matin chez grand-maman. » « Mon ami, répondit la mère, le monsieur vous a trouvé gentil tous les deux et il vous a embrassé parce que vous avez été bien sage. »« Ah, il était bien vilain, avec ses grands cheveux, ses grands yeux, sa grande barbe, dit la petite fille. Il m'a fait peur. »« Moi, je n'ai pas eu peur, répliqua Jacques. J'ai bien vu que le monsieur n'était pas méchant. D'abord, il pleurait. Les hommes méchants ne pleurent pas, n'est-ce pas, maman ?» « C'est vrai, mon ami. D'après ce que vous m'avez dit tantôt, il vous a embrassé sans vous parler. » Le petit Jacques et sa sœur répondirent par un mouvement de tête. « Et puis, il est parti. Et grand-maman lui a donné des sous parce qu'il est pauvre. Il a sans doute des petits-enfants comme vous et avec l'argent de votre grand-maman, il a pu leur acheter du pain. » Il y a beaucoup de malheureux sur la terre, mes enfants. Lorsqu'il s'en présentera un à la ferme, ne le repoussez jamais. » Après le récit que ses enfants lui avaient fait dans la journée, Céline, poussée par un sentiment de curiosité très excusable, avait interrogé sa mère au sujet de ce qui s'était passé chez elle le matin. Madame Cordier avait répondu : Tout cela est vrai. Un inconnu, probablement un mendiant, est entré chez moi. Il était fatigué, il m'a demandé la permission de se reposer un instant, ce que je ne pouvais lui refuser. Les enfants étaient là, il les a pris sur ses genoux et les a embrassés. Je ne voyais pas de mal à cela, je les laissais faire. » La jeune femme s'était trouvée satisfaite. Lorsqu'elle eut couché les jumeaux, elle sortit doucement et la chambre retomba dans l'obscurité. Étienne se redressa. Il passa plusieurs fois ses mains sur son front glacé. Un soupir s'échappa de sa poitrine oppressée et il s'éloigna rapidement. Le lendemain, un boucher des environs vint à la ferme pour acheter des moutons. Après avoir réglé son compte avec Jacques et remis l'argent dans les mains de Céline, il leur dit « Vous ne savez probablement pas encore l'événement de la nuit dernière. À 2 lieues d'ici, près de Montigny, dans un enclos, à 20 pas de la route, on a trouvé ce matin le cadavre d'un homme. » « Assassiné ! » s'écria le fermier. « Si l'on en croit les médecins, ce serait un suicide. Le malheureux s'est fait sauter la cervelle d'un coup de pistolet. On a trouvé l'arme près de lui. »« Oh, c'est horrible ! » dit Céline. « Est-ce un homme du pays ? » demanda Jacques. « Personne ne la reconnut. Du reste, c'eût été fort difficile, car avant de se tuer, il s'était affreusement brûlé la figure avec du vitriol. Il n'avait pas de papier sur lui. Aucun papier. C'était un homme robuste, jeune encore, pauvrement vêtu. Il avait la barbe et les cheveux longs. De longs cheveux, une grande barbe, murmura Céline. On suppose, poursuivit le boucher, que c'était un mendiant ou un évadé de quelque prison et qu'il s'est donné la mort pour échapper au malheur de vivre. De longs cheveux, une grande barbe, murmura encore la jeune femme. Et sans prévenir son mari, elle sortit de la ferme et courut chez sa mère. La nuit dernière, près de Montigny, un homme s'est suicidé, lui dit-elle. On a trouvé son corps ce matin. Pour ne pas être reconnu, il s'était défiguré avec du vitriol. Madame Cordier devint très pâle. Elle avait attendu Étienne toute la nuit. Elle comprit tout. « Ma mère, continua Céline, trop vivement émue pour s'apercevoir du trouble de la vieille femme, cet homme, ce malheureux, est celui qui, hier matin, ici, a embrassé mes enfants. »« Quelle idée !» balbutia Madame Cordier. Le suicidé a de longs cheveux, une longue barbe. Tous les hommes peuvent être ainsi, répondit la vieille mère. Ils n'ont qu'à laisser pousser leurs cheveux et leurs barbes. Ma mère, reprit Céline de plus en plus agitée, tout à l'heure, quand on a parlé de ce malheureux, je ne sais ce qui s'est passé en moi, j'ai pensé à Étienne. À Étienne, le pauvre enfant est mort en Prusse il y a longtemps. Vous avez raison, ma mère. Ah, je suis folle! Elle se laissa tomber sur un siège et se mit à sangloter. Madame Cordier se disait « Dans mon cœur, seule, jusqu'à mon dernier jour, je porterai une seconde fois son deuil. »